Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue, il est 13h à Melbourne, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS, Thomas Mercier pour vous accompagner durant 7h. Après votre journal, nous retrouvons le journal des sports, puis nous avons reçu Nicolas Leroux, auteur du site lalanguefrançaise.com. Grand reportage ce samedi, se rend à La Réunion. Et enfin, Jonelle Ducasse a reçu la chanteuse Lisa Ducasse, aucun lien parenté au micro de SBS. Mais tout de suite, c'est votre journal. Les titres de ce samedi 7 mai, la ministre australienne des Affaires étrangères a rencontré son homologue des îles Salomon à Brisbane dans la nuit. On fait le point sur la campagne électorale à 2 semaines de l'ouverture des bureaux de vote. Et en Ukraine, une cinquantaine de civils ont pu être évacués dans la journée de vendredi du complexe de chirurgie de Mariupol après de vives tensions et des accusations de tirs visant des convois. Les évacuations devraient se poursuivre ce samedi alors que Kiev cherche une solution pour ses soldats. La ministre australienne des Affaires étrangères a rencontré son homologue des îles Salomon à Brisbane dans la nuit où ils auraient discuté de l'inquiétude de l'Australie concernant l'accord de sécurité de la nation pacifique avec la Chine. C'est la première fois que les deux ministres se réunissent depuis la signature de cet accord. Cela intervient après que le premier ministre des îles Salomon, Manashes Segarave, a déclaré à son parlement que son pays avait été menacé par un risque d'invasion par des puissances étrangères en raison de son pacte avec la Chine. Une affirmation que le Premier ministre Scott Morrison a démenti. Le ministre du Tourisme et du Commerce Tehan a déclaré à ABC que l'Australie restait toujours le partenaire sécurité de choix dans l'Indo-Pacifique.
We've just got to continue working and building that relationship and making sure that they understand that the role that Australia can play in the Pacific is one that in the end is in the best interest of Pacific nations across the board.
Alors que la campagne électorale fédérale bat son plein à 2 semaines de l'ouverture des bureaux de vote, la coalition se concentre sur la relance du tourisme, tandis que les travaillistes se tournent vers la baisse du coût de la vie. Le Premier ministre Scott Morrison, qui fait campagne à Perth, a annoncé que les établissements vinicoles, de distilleries et les brasseries partageront une promesse de don de 20 millions de dollars pour attirer les touristes dans les caves affectées par la baisse de fréquentation durant la pandémie Covid-19. Pendant ce temps, le chef de l'opposition Anthony Albanese est à Sydney où il se concentre sur le programme du parti travailliste visant à réduire le coût de la vie grâce à des politiques de garde d'enfants et d'énergie, et cela dans un contexte de faible croissance des salaires et des flambées de l'inflation. La candidate travailliste, quant à elle, de Greenway, Michelle Whelan, a déclaré que le Premier ministre n'avait aucun plan au-delà de la fin de campagne pour aider les Australiens.
Romanticising about the past and also thinking just in terms of polls and political outcomes serves no purpose at all. And I think that that exemplifies Scott Morrison's approach to this election. I can tell you today, 2 weeks out, he has a plan for the next 2 weeks and that's it. Whereas families in this electorate, people who are working hard and doing their best, have one thing in mind, and that is that their children have a better life than they had themselves.
Direction l'Ukraine, la libération d'une cinquantaine de personnes dans la journée de vendredi, des femmes, des enfants, des personnes âgées, a été confirmée par la vice-première ministre ukrainienne qui pense que ces évacuations devraient se poursuivre ce samedi de Mariupol vers Zaporizhzhia. Dans le même temps, Kiev cherche une solution diplomatique pour ses soldats qui défendent cette usine d'Avostal. C'est ce qu'a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky et a indiqué que les intermédiaires des États influents étaient impliqués impliqué dans ces efforts diplomatiques et n'a pour le moment pas donné plus de détails. Les autorités de la ville de Mariupol, déplacées à Zaporijja, ont découvert dans cette ville un centre d'aide appelé « Je suis Mariupol » qu'ont visité Anastasia Bekio et Boris Vichite pour RFI.
Dans une pièce transformée en halte garderie pendant que les parents font des démarches administratives, un enfant dessine un cube en briques. C'est Azovstal, dit-il. Ici, les combats de ce grand complexe sidérurgique sont dans toutes les têtes, raconte Yulia Drestianikova, qui était directrice de la maternelle numéro 49 de Mariupol.
Ce qui se passe à Azovstal, c'est terriblement douloureux. Nous ne voulons pas croire que ça se terminera mal. Nous espérons qu'ils seront sauvés. Nous attendons un miracle parce que ce sont réellement des héros.
Derrière un paravent, Lyudmila Shevchenko, médecin de Mariupol, examine plusieurs dizaines de personnes par jour. Elle a un petit stock de médicaments, mais certains font cruellement défaut.
On n'a pas de vitamines et surtout on n'a pas d'anxiolytiques ou de calmants, alors que c'est ce dont on a le plus besoin ici.
À l'extérieur du centre, plusieurs dizaines de personnes font la queue. Valeria, elle est très tirée, attend son tour pour s'inscrire à une consultation psychologique.
Mon mari est à Mariupol et les militaires de carrière, cela fait plus d'un mois que je n'ai aucune nouvelle. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était le 2 avril. Il est peut-être prisonnier ou bien il est peut-être coincé à Azovstal, je ne sais pas.
Seule petite éclaircie pour Valeria, elle retrouve dans la file d'attente une ancienne voisine tout juste arrivée de Mariupol, dont elle était sans nouvelles depuis deux mois. Anastasia Bekio, Boris Vichit, Zaporijja, RFI.
Et dans la soirée, Joe Biden a annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, une aide composée principalement de munitions d'artillerie et de radars. La Chine défend le bien fondé de sa politique zéro Covid, où le moindre test positif au virus déclenche toute une série de restrictions, et notamment pour les habitants de Shanghai en confinement qui s'éternise depuis plus d'un mois. Le président Xi Jinping lui-même défendu sa stratégie malgré un coût humain et économique élevé. Stéphane Lagarde pour RFI.
C'est la deuxième fois en moins de deux mois que Xi Jinping prend la parole publiquement sur le sujet. Le 17 mars dernier, le président chinois reconnaissait que la politique de non-tolérance absolue avec le virus devait être adaptée pour protéger l'économie, cette fois plus de concessions. Face à la colère des confinés, le chef de l'État demande de rester ferme face aux critiques. La stratégie chinoise résistera à l'épreuve du temps, a-t-il déclaré. Nous devons lutter contre les discours qui déforment et remettent en question la politique anti-épidémique de notre pays. Ces propos sont relayés par les hauts responsables de la politique sanitaire. La Chine doit préserver les résultats du acquis face à l'épidémie et saluer la victoire au 20e congrès du parti, a martelé le mois dernier le directeur de la Commission nationale de la santé. Le zéro Covid, une affaire politique, est considéré comme une victoire sur le virus dans un pays où la pneumonie virale a officiellement fait moins de 5000 morts. La plupart des comptes sociaux, des experts, médecins, épidémiologistes et surtout économistes qui osent remettre en cause cette politique attachée à la personne du chef de l'État sont censurés. Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
La police britannique a déclaré qu'elle enquêterait sur le chef de l'opposition Keir Starmer sur une violation potentielle des règles de restriction liées au Covid-19 l'année dernière, alors que les élections locales ont vu pour la toute première fois le parti travailliste de l'opposition britannique remporter le conseil de Westminster où se trouvent la plupart des institutions gouvernementales. Mais ce Starmer, qui avait été auparavant le principal procureur du pays, a lancé des appels au Premier ministre Boris Johnson et au ministre des Finances Rishi Sunak pour qu'ils démissionnent après avoir tous deux été condamnés à une amende pour avoir organisé des célébrations au bureau de Downing Street pendant le confinement britannique de 2020. La candidate travailliste de Putney, Fleur Anderson, a défendu son chef auprès de CNN.
There's no equivalence really between the investigation for Keir Starmer, which will, I'm sure, come out with saying he had a beer during a work meeting, he broke no rules, compared to all the parties, 16 parties that happened there in Downing Street. And I've made people so angry that when they were following the rules, that the Boris Johnson and others in Downing Street, the government, they were not following the rules.
La météo de ce samedi à Perth, journée ensoleillée, 26 degrés sont prévus. Adélaïde, risque d'averse et seulement 18 degrés. À Melbourne, journée véritablement automnale, marquée par des averses pour un maximum seulement de 15 degrés. Hobart, météo à peu près identique à Melbourne et seulement 15 degrés également. Canberra, alternance de nuages et d'éclaircies, 13 degrés prévus. Sydney, ciel marqué par la présence de nuages et 20 degrés. Brisbane, pluie et 24 degrés. À Cairns, pluie prévu en fin de journée, 30 degrés. Et Darwin, temps ensoleillé et 35 degrés. La ministre australienne des Affaires étrangères a rencontré son homologue des îles Salomon à Brisbane dans la nuit. La campagne à 2 semaines de l'ouverture des bureaux de vote bat son plein en Australie et une cinquantaine de civils ont pu être évacués en Ukraine dans la journée de vendredi du complexe de chirurgie de Mariupol après de vives tensions et des accusations de tirs visant les convois. Les évacuations devraient se poursuivre ce samedi alors que Kiev cherche des solutions pour ses soldats. Bon appétit avec SBS.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Le journal des sports dans votre programme en français sur SBS et on commence tout de suite par le cyclisme. Cette année, le départ du Giro, le Tour d'Italie, était donné en Hongrie et c'est le Néerlandais Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé sur les routes de Visegrad et endosse le maillot rose de leader. Quant à lui, le Français Romain Bardet termine 22e de cette première étape et par ailleurs, je vous invite à suivre le Giro en live sur SBS On Demand. En football, le grand 8 pour Monaco. L'ASM a enchaîné une 8e victoire consécutive en championnat sur la pelouse de Lille, 2-1, et s'est emparé provisoirement de la 2e place vendredi en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Le club de la Principauté peut remercier son milieu Aurélien Tchouaméni et son numéro 8 qui a offert la victoire sur un superbe doublé sur 2 frappes en dehors de la surface. Le joli but d'Angel Gomez qui avait permis au LOSC d'égaliser aura finalement été 20. En handball, les handballeurs parisiens sans rival sur la scène nationale ont décroché un 8e titre consécutif de champion et vont désormais s'atteler à se qualifier pour les demi de la Ligue des Champions. Vendredi soir, le Paris Saint-Germain s'est offert un match de 40 minutes et a été mené 16-11 après 20 minutes. Mais l'entrée en jeu de Yann Gentil dans les buts et du très précieux Mathieu Gribil ont permis d'égaliser avant la pause 18 partout avant de s'imposer 37-33 et ainsi chercher le titre. Et on termine par le tennis et Rafael Nadal qui s'est incliné 6-2, 1-6, 6-3 face à l'étoile montante Carlos Alcaraz qui s'est tordu la cheville en plein match vendredi en quart de finale du Master 1000 de Madrid. Tournoi de reprise de l'ancien numéro 1 mondial, 1 mois et demi après une fracture de fatigue à une côte. Merci d'avoir suivi votre journal des sports.
Impossible de parler de Maloya sans évoquer une légende, un chanteur engagé et militant implacable, attaché à sa langue et culture créole. À 87 ans, il est le dernier des pionniers encore en vie de cette musique de souffrance, d'exil, analogue au blues occidental. Il s'appelle Firmin Viry, lui-même fils de planteur, antimilitariste et communiste.
Nous, le Maloya, là, c'est la revendication de mes vieux parents quand ils étaient esclaves.
Le Maloya que je chante perpétue les revendications sociales de mes ancêtres africains. Je suis un descendant d'esclaves comme toute ma famille. Moi-même, j'ai été coupeur de canne à sucre. On a construit de nos mains notre maison avec du bois et de la paille. Les temps étaient difficiles. Il n'y avait pas de syndicat pour défendre nos droits, mais nous avions le Maloya pour dénoncer nos conditions de vie mauvaises. C'est ce que j'ai fait dès l'âge de 9 ans dans les villages. En 1959, j'ai chanté à la fête du Parti communiste de la Réunion. J'avais 24 ans. Ce fut un moment historique pour moi, parce que notre musique héritée de l'esclavage faisait son entrée officielle dans l'espace public. Mais la joie n'a pas duré, car un an après, le premier ministre de l'époque, Michel Debré, voulait éloigner les fonctionnaires communistes de la Réunion. Ça n'a pas raté. Victime de sa politique, le Maloya est privé de radio et de télévision. Du coup, il s'est trouvé condamné à la clandestinité. Ce qui ne m'a pas empêché de faire mon premier album en 1976. Mais bon, il a été interdit tout de suite car je parlais de l'autonomie de notre île. Les politiques me voyaient comme leur ennemi. Étant donné que j'étais, et d'ailleurs je suis toujours, un révolutionnaire communiste. Tous sauf un, François Mitterrand. Avec son arrivée au pouvoir en 81, la tradition du Maloya est réhabilitée. Et depuis, on a défoncé la baraque.
Comment la demande à moi, quel cadeau m'en a préféré.
Cette voix est celle de Marie-Claude Lambert-Phileas. Elle fredonne tout le temps, partout, comme ici au marché forain de Saint-Pierre, dans le sud de l'île. On y trouve de tout, fleurs, artisanat, grillades de poissons et des instruments caractéristiques de cette musique, comme le cayambe, boîte en canne à sucre, ou le rouleur, un gros tambour. Des instruments qui ressuscitent son maloya des racines.
Oui, je suis une puriste. Je suis une guerrière du maloya. J'avoue.
À 42 ans, Marie-Claude Lambert-Phileas est l'une des artistes les plus en vue de l'île. Attachée au patrimoine musical, cette chanteuse défend un retour aux sources du maloya. Chez elle, la musique est une affaire de famille, une tradition héritée de son père, Gramon Lélé, chanteur emblématique des années 90.
J'ai eu un bon professeur, mon père, Gramon Lélé. Quand il revenait nous voir pour nous dire « Est-ce que vous vous rappelez de cette chanson ?» Il fallait absolument qu'on savait. Parce que si on ne savait pas, c'était la fessée. Il y a beaucoup de chansons qu'on a apprises parce que notre mémoire était sollicitée à chaque fois. Même si on ne voulait pas faire de la musique, on était obligé, quoi. C'était une mode de vie. À l'époque, j'avais 8 ans. Voilà. Moi, je suis la dernière de 13 enfants. On a des origines différentes, mélangées, malgaches, tamoul, puis africains. En 1800, quelques, il y avait 3000 Africains qui est venu sur Saint-Benoît, à La Réunion. Quand on joue le maloya, c'est roots. Il y a plus un côté africain qui est ancré. En fin de compte, le maloya, c'est une communication entre la terre, le respect de nous-mêmes et nos ancêtres.
Un nouvel année commence. Nous n'avons pas résolution, si temps est débordé. Et la donne fond mon cœur, je sens à me parer. Assise côté moi, Catherine, écoute mon idée.
Source inépuisable de métissage, le maloya se joue à toutes les sauces. Il se renouvelle sans cesse avec les jeunes artistes qui lui apportent une nouvelle dimension. Tim Zeni est trompettiste et chanteur. Il a grandi avec le poids de l'histoire de l'esclavage, mais sa musique déborde d'optimisme et de textes humanistes.
Je mélange la soul musique avec mes influences de l'île de la Réunion, la musique d'Afrique de l'Ouest aussi. C'est mon univers. Historiquement aussi, il y a des chemins de la traite négrière qui sont passés aussi par ici. Enfin, donc cette part d'africanité, elle est présente. Tout ça, c'est l'Indian-Océanie, quoi. Ça fait partie de nous et on est fiers de ça. Cette interculturalité, elle est présente dans chacun de nos pas, dans chacune de nos mélodies, en fait. Donc on est tellement immergés dedans et qu'on se sent tellement bien, c'est tellement positif, en fait. C'est cette volonté de vivre l'instant, simplement, juste être. On est un territoire qui foisonne de talents et de possibilités. Et juste avoir l'espace et le temps de nous valoriser, ça a beaucoup, beaucoup de sens. Ben, ça attire, il y a une vibe, il y a un groove, il y a un ancrage. Je pense que je passe par un chemin de composition qui m'amène déjà vers une introspection de ce que je suis moi, mon île, comment je me positionne, ma place, la place que je me donne, que je prends à travers mon identité. Tout ça, je le dis dans mes chansons et dans ma musique.
À La Réunion, c'est une véritable effervescence qui permet à la nouvelle génération locale de s'épanouir. Le marché international des musiques de l'océan Indien, le Yuma, encourage son développement. Éric Juré est le directeur de cet événement professionnel le plus important de cette région du monde.
C'est pas que de l'exotisme comme on pourrait encore le voir il y a certaines années. Et ce qu'on renvoie sur l'international et sur l'Europe, c'est quelque chose qui est bien plus riche, qui aujourd'hui est bien plus moderne et qui n'est pas simplement dans du folklore. C'est un marché qui est né d'un festival, par contre, qui est le festival Sakifo. Il était important et intéressant de faire se rencontrer aussi les professionnels dans ces moments-là. Et le Yoma est donc né également sur une volonté politique, puisqu'à un moment donné, il faut aussi que tout ça soit financé. Et c'est le cas pour le Yoma qui est financé par des fonds européens et des fonds régionaux locaux. Il y a l'État, la SACEM, on est très fortement soutenu. Et donc ça se concrétise, le marché existe, puisque c'est un marché, donc on achète et on vend, hein, pour faire court. C'est voir aussi quelle est l'actualité de la scène musicale de l'océan Indien. Ça ouvre des portes. Ce qui est magnifique en ce moment à La Réunion, c'est que je trouve qu'on a vraiment une génération dorée, tout ce qu'ils utilisent venant des anciens, qu'ils modernisent, ils le font avec beaucoup de bienveillance, ils utilisent des sons qui sont nouveaux, qui sont modernes. C'est une très belle façon de préserver à la fois le patrimoine et en même temps de l'emmener vers le futur.
Dépassant de loin le traditionnel, l'Yuma attire des tourneurs et producteurs internationaux en quête de nouveautés. Dénicher la perle rare, c'est l'objectif du voyage à La Réunion de Perrine Delteil. Elle est la directrice du festival Trois éléphants en métropole.
C'est important de découvrir la musique d'autres territoires et d'aller à sa rencontre et de diffuser ces artistes-là dans nos festivals à nous. Donc on se déplace là pour découvrir les artistes, pour rencontrer aussi leurs entourages professionnels et les programmer après sur nos événements, les faire venir, les faire connaître. Ça leur permet aussi de toucher d'autres audiences et donc d'augmenter leur visibilité quand ils peuvent venir en Europe. Je suis déjà venue sur le festival il y a 3 ans. J'avais découvert l'artiste Nakane qui m'avait énormément touchée et émue. C'est aussi l'idée de mettre en avant d'autres visages et d'essayer de ne pas être trop ethnocentré sur ce qui se passe nous ici en Europe ou dans les pays occidentaux et puis de laisser une place à des courants esthétiques qui méritent d'être connus et diffusés.
Aujourd'hui, on ne compte plus les héritiers des pères fondateurs du Maloya. Parmi eux, Daniel Waro, artisan du renouveau de cette musique qui est aux plantations de canne à sucre de La Réunion, ce que le négro spiritual est au champ de coton des États-Unis. De nombreux jeunes artistes, qu'ils se réclament du rock, de la pop ou du metal, agrémentent leur musique actuelle de ces rythmes séculaires. C'est le cas d'Horus. Fer de lance d'une musique hybride, il est la fierté de La Réunion.
Il y a aussi des instruments traditionnels que j'aime prendre en fait avec dans des effluves de Maloya, mais qui sont mises dans un écrin plutôt pop et plutôt électronique, donc qui finalement moi me parle en fait, parce que c'est à la fois le Maloya, c'est mes racines, et en même temps il y a aussi tout ce que j'ai écouté, tout ce qui m'a nourri, mon parcours professionnel aussi, qui m'a amené à m'imprégner de beaucoup d'esthétique musicale. Du coup c'est un peu une synthèse de tout ça quoi, donc il y a vraiment ce côté un peu électronique, organique, il y a de l'anglais et du créole, c'est ma langue maternelle. Donc c'est vraiment plein de ponts comme ça. J'ai l'impression en tout cas oui qu'il y a tout un mouvement, on s'approprie nos propres racines et on les amène peut-être ailleurs. Il y a effectivement beaucoup de virages qui s'opèrent, il y a du Maloya salsa, du Maloya metal. Quelque part c'est comme si on faisait un espèce de métissage 2.0, c'est-à-dire que nos racines qui sont elles-mêmes déjà métissées, on les prend, on se les réapproprie et on les métisse à encore d'autres influences, quoi, pour créer quelque chose de nouveau.
Mambo, ooh. La fusion du Maloya avec d'autres mouvances musicales mondialisées cherche à revaloriser l'héritage ancestral. Le chant rebelle et longtemps interdit des Noirs de La Réunion, Christine Salem le promeut sur les scènes internationales en le mélangeant avec tous les styles. L'icône mondiale va plus loin et flirte même avec l'au-delà, nous dit-elle avant de monter sur scène au festival Sakifo ce jour de décembre.
J'ai découvert le Maloya un peu tard, dans la rue. J'ai pas fait de conservatoire, rien, je fais tout à l'oreille. C'est comme si que cette musique est venue me chercher, quoi. Et aussi, ce qui a déclenché aussi tout ça, parce que moi je suis né le 20 décembre, et le 20 décembre c'est la fête de l'abolition de l'esclavage. Et c'est à partir de là que je me suis posé plein de questions, c'est comme ça que j'ai appris que mes ancêtres, une partie étaient des esclaves, et surtout après à l'école, on dit que nos ancêtres étaient des Gaulois, et là j'ai dit mais comment ça, nos ancêtres étaient des Gaulois? Et du coup, ça a créé une espèce de colère à l'intérieur de moi. Et du coup, ça m'a encore plus encouragé d'aller dans le côté traditionnel. À l'époque, le Maloya, c'était même pas considéré comme une musique, quoi. Et moi, je me rappelle une fois, j'ai fait un premier concert, ça devait être en 96. Plein de gens me disaient, ouais, mais ça c'est du Maloya, ça va pas aller loin. Et là, j'ai persévéré. En fait, j'ai commencé à aller en tournée, à jouer partout dans le monde. Je suis toujours habité par mes ancêtres. Du coup, j'ai participé à des cérémonies et ça me fait chanter dans des langues que je ne connais pas forcément. Chacun a un peu sa mission.
Ici d'un pays bourbon, nous-mêmes plantés à La Réunion. Nous travaillons 12 mois dans l'année. Pour nous récolter une fois par an.
Pour ces artistes du bout du monde, le refus de l'uniformisation et la volonté de brouiller les frontières pour ne pas se laisser enfermer dans une case semble être la meilleure manière de défendre leur culture créole.
Quand nous réclame nous dit, camarades, quand nous réclame nous dit, quand nous réclame nous dit, voilà c'est la fine arrivée. Voilà les matraques à nous. Voilà l'Iambac à nous, dans son panier salade, la porte, la prison, la fini ouvert.
On reçoit sur SBS Nicolas Leroux. Nicolas Leroux est l'auteur d'un site internet qui s'appelle lalanguefrançaise.com. Ce site donne plein d'informations pour bien s'exprimer en français. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thomas, merci de me recevoir.
Alors, comment vous êtes venu l'idée de faire ce site internet qui est une mine d'informations en termes d'apprentissage de la langue française, autant sur l'orthographe des mots, sur la grammaire, mais également sur les expressions typiquement françaises?
Alors, j'ai créé ce site en 2015. À l'époque, j'étais étudiant à Paris. Et certains de mes professeurs me répétaient, me sermonnaient en me disant que je faisais trop de fautes d'orthographe. Et donc plutôt qu'ouvrir un manuel de grammaire, j'ai préféré chercher un peu des informations sur Internet. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de sites qui expliquaient simplement les différentes erreurs d'orthographe qu'on peut faire. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé, en tant qu'étudiant, à écrire des articles sur tous les doutes d'orthographe que j'avais. Et peu à peu, je me suis rendu compte que beaucoup de gens cherchaient sur les moteurs de recherche ces fautes d'orthographe et arrivaient sur mon site. Et donc je l'ai progressivement changé en un véritable média sur la langue française qui publie tous les jours des articles à la fois sur l'orthographe, mais aussi maintenant sur des expressions francophones, sur la littérature, on publie des quiz pour s'entraîner, etc.
Je sais quel type d'études vous avez fait. Vous avez fait Sciences Po à Paris. Le niveau de grammaire, d'orthographe, il est juste, ça doit être sans faute. C'est-à-dire que chaque partiel, si vous faites le moindre faute, le correcteur, au bout de 3 fautes, il vous blacklist et vous n'avez pas vos partiels. Comment vous avez pu gérer ça? Parce que vous êtes parti de votre point faible et vous avez fait votre point fort.
Oui, alors j'ai eu la chance d'avoir des professeurs un peu indulgents au début, mais qui m'ont fait comprendre qu'il fallait tout de même que je progresse assez rapidement, parce que sinon ça allait devenir problématique. Mais j'ai toujours eu un attrait pour la langue française, je lis beaucoup de littérature, je faisais juste des fautes d'orthographe parce que j'avais peut-être par fainéantise, un peu oublié les bases de la grammaire française, qui, il faut le dire, est extrêmement complexe. Je suis toujours admiratif des gens, enfin des non-francophones natifs qui apprennent le français. C'est une langue qui est complexe, mais qui est magnifique. Et donc, en créant ce site, ça m'a donné la motivation de progresser et tout en étant utile à toutes les personnes qui se posent des questions sur notre langue.
La dégradation de la langue française est quand même assez visible, et vous évoquez d'ailleurs dans votre site internet, notamment, c'est un peu la faute aussi aux réseaux sociaux, puisqu'on n'a plus l'habitude en fait de prendre un stylo, d'écrire, de vérifier, et c'est vrai que c'est difficile de trouver une plateforme où l'on peut vérifier si notre français est correct, n'est-ce pas ?
Oui, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, mais pas que. Il arrive de trouver des fautes d'orthographe dans des articles de presse, sur différents supports, dans des communications officielles. Mais notamment sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de fautes d'orthographe, puisque les gens ne se corrigent pas, ont oublié les règles, etc. Et le problème, c'est que par mimétisme, à force de lire ces erreurs, on les fait à nouveau. Donc pour moi, c'est un véritable enjeu. Il y a aussi des gens qui utilisent des correcteurs d'orthographe. Je pense que ça peut être une solution, mais il faut garder à l'esprit, à mon sens, que rien ne remplacera le fait de connaître le fonctionnement du français, les règles grammaticales, aussi difficiles soient-elles. Je pense notamment aux participes passés. Donc il faut faire cet effort de reprendre un peu les bases et essayer de le faire de manière un peu ludique, en faisant des quiz, des dictées, etc.
La langue française est une langue, ça a été déjà, je ne vous l'apprends pas, la langue internationale. C'est-à-dire que tous les diplomates, jusqu'à une certaine époque, c'était la langue qui était utilisée dans le monde entier. C'est une langue extrêmement riche et assez difficile, en fait, à apprendre. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui démarre des cours de français, qui désire découvrir la langue française ?
Je pense que pour apprendre une langue, que ce soit le français ou une autre, le mieux, c'est de s'intéresser aussi à la culture des pays qui la parlent. En l'occurrence, pour le français, c'est une formidable richesse, parce qu'il y a énormément de pays qui parlent le français. Donc s'intéresser à la culture, essayer de regarder des séries télévisées, essayer de lire au début des articles de presse ou même des livres pour enfants ou des petites nouvelles. Et c'est comme ça que peu à peu, les apprenants vont progresser. Et puis bien sûr, le mieux est d'essayer d'échanger et d'utiliser une langue pour communiquer. Et donc essayer de rencontrer soit en ligne des gens pour faire des tandems de langues, ou si les gens en ont l'opportunité, le mieux reste d'aller voyager, voire de vivre dans un pays qui parle le français. Et là, ça sera bien sûr plus facile et plus motivant pour les personnes d'apprendre le français.
Il y a plusieurs langues françaises, si je puis dire. C'est-à-dire... On parle français, par exemple, au Canada, on parle français dans une partie de la Belgique, on parle français dans une partie de la Suisse, dans les pays africains. Est-ce qu'il y a, alors c'est peut-être une question un peu piège, mais est-ce qu'il y a différentes langues françaises où on a quand même une colonne vertébrale assez commune par rapport à tous ceux qui pratiquent la langue française ?
Alors, c'est une question intéressante. Je ne suis pas un spécialiste je ne suis pas un linguiste de formation, mais je crois qu'une des singularités de la langue française, c'est qu'il y a des organes. Je pense notamment à l'Académie française en France, mais aussi, c'est aussi le cas au Québec, qui vont donner, entre guillemets, la norme concernant la langue française. Et ce n'est pas le cas d'autres langues. Mais dans le même temps, le français est parlé dans plein de pays très divers, sur différents continents, vous l'avez dit, en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique. Et donc, ça crée des usages différents, des vocabulaires différents. Donc, sur mon site, en l'occurrence, je m'amuse souvent de montrer un peu ces différences. Je crois que c'est vraiment la force du français que d'avoir cette diversité. Et donc, il y a notamment en termes de vocabulaire, il y a des différences notables. Et certains mots qui vont être utilisés, par exemple, au Mali, ne vont pas être compris en France. Mais c'est pas, selon moi, c'est pas un problème.
Votre site internet comporte plusieurs rubriques. Vous avez un dictionnaire, vous proposez de la conjugaison, de l'orthographe, de l'expression, des proverbes, littérature, grammaire, linguistique, des quiz. Et vous proposez également des cours d'orthographe. Comment cela fonctionne ?
Alors, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de rubriques et toutes ces rubriques sont en accès libre. C'est quelque chose qui me semble important. L'objectif, c'est que le plus grand nombre puisse accéder aux informations. Et ensuite, on propose aussi une formation en orthographe, notamment pour les gens qui sont francophones natifs ou des gens qui ont atteint un certain niveau en français en l'apprenant et qui souhaitent vraiment pouvoir s'exprimer, écrire de manière parfaite, entre guillemets, même si bon, c'est assez difficile d'éviter toutes les erreurs. Et donc je pense notamment aux gens qui travaillent ou aux étudiants comme moi qui faisaient des fautes. Grâce à cette formation, ils vont pouvoir, en quelques semaines, quelques mois de formation, reprendre toutes les bases et ne plus faire d'erreurs d'orthographe.
Alors dans le cadre de votre formation, vous avez eu l'occasion de lire beaucoup de livres, notamment des livres de sciences politiques. Et si je vous cite par exemple un auteur comme Raymond Aron, qui est... un homme extraordinaire en termes de culture de la science politique. Lorsque vous lisez du Raymond Aron, qui date quand même d'un certain nombre d'années par rapport à la littérature d'aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que la langue française a évolué depuis ?
Oui, certainement. Alors, j'aime beaucoup Raymond Aron, donc je suis heureux que vous le citiez. Certainement. Après, je ne crois pas à l'idée que le français aujourd'hui... serait amoindri ou serait d'une moins bonne qualité par rapport aux Français de l'époque. Il y a certainement davantage de personnes qui maîtrisent moins les règles du français, mais parmi les personnes qui respectent la grammaire française, je crois que ces personnes s'expriment tout à fait correctement, avec forcément des nouvelles expressions, des nouveaux mots. Dans la section dictionnaire dont vous avez parlé, je mets des graphiques d'évolution d'usage des mots à travers les siècles. Et on se rend compte qu'il y a certains mots, certaines expressions qui ont totalement disparu, d'autres qui ont été très, très populaires au XVIIe siècle, qui ont ensuite un peu disparu et qui reviennent au XXe siècle. Et donc, c'est aussi ça l'intérêt du français et des langues en général. Les langues évoluent, et donc forcément, les gens d'aujourd'hui ne parlent pas comme Raymond Aron, mais parlent également un français qui est tout à fait intéressant et élégant.
En effet, sur votre site internet, il y a des mots que je n'ai jamais entendus de ma vie, comme « diètre ». Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Je découvre des mots oui, complètement inconnus de moi, de mon côté, de mon propre vocabulaire. C'est une belle richesse que vous avez sur votre site internet, lalanguefrançaise.com, par Nicolas Leroux. Merci Nicolas d'avoir accepté notre invitation. Et j'invite toutes les personnes à aller visiter ce site internet, lalanguefrançaise.com. Merci Nicolas.
Merci Thomas, à bientôt.
À bientôt.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Comme artiste, comment avez-vous vécu les deux dernières années ?
Alors,
difficilement.
Ben, en fait, alors, je pense que quelque part, j'avais de la chance que au moment où ça arrivait, voilà, mon projet, il était en train de naître, de prendre forme. Et qu'en fait, ça m'a donné un temps que peut-être que je n'aurais pas pris autrement pour vraiment poser certaines bases, pour réfléchir, en fait, pour réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de raconter, sous quelle forme j'ai envie de le mettre en avant, donc de me poser toutes ces questions-là, de travailler aussi beaucoup parce que je compose, mais à l'époque, je pense que j'ai toujours composé au clavier. Oui. Mais par ailleurs, par exemple, je ne m'accompagnais pas sur scène parce que c'était quelque chose. Pour moi, je ne suis pas musicienne en fait. Enfin, j'étais pas musicienne. Et donc, ça a été une période qui m'a permis de travailler sur tout ça, de me dire en fait, j'essaie d'avoir le plus d'autonomie possible. Donc, du coup, j'ai beaucoup travaillé la composition d'arrangement au-delà de juste la composition de mélodie, mais la composition, tout ce qui va derrière, en fait, les accords, les arrangements, écrire avec l'idée de plusieurs instruments en tête et l'accompagnement sur scène aussi. Donc, maintenant, je joue toute seule. Enfin, le format que j'ai en ce moment, c'est un seul sur scène. Donc, je m'accompagne au clavier. Donc, ça, c'est des choses que j'ai eu l'occasion de travailler, du coup, que peut-être, je sais pas, mais peut-être j'aurais pas pris le temps sinon. Et j'aurais fixé des choses beaucoup plus vite. Et en fait, là, par exemple, ça a conduit à les morceaux que j'ai enregistrés dernièrement et il y en a un premier qui est sorti et les autres vont commencer à sortir aussi. Ça a été avec un compositeur qui s'appelle Guillaume Poncelet. Et Guillaume Poncelet, en fait, ça fait des années que je le connais et que je me dis, le jour où j'ai un projet concret, c'est avec lui que j'ai envie de travailler. Et ça, pareil, ça a pris du temps, en fait. Donc, et ça a pris le temps de la maturation de mon côté aussi. Donc voilà, j'essaie en tout cas de voir le bon côté des choses, si c'est possible, et de me rendre compte que c'est aussi un temps qui m'a permis de faire grandir le projet avant de le présenter, en fait, avant de le faire écouter.
Un petit mot peut-être sur les prochains projets de 2022 et peut-être au-delà.
Oui, donc là, donc comme je disais, il y a un premier morceau qui est sorti et qui s'appelle Qui sont. Oui. On a fait, il y a un clip aussi qui a été fait avec un réalisateur qui travaille plutôt pour le cinéma à la base. Et en fait, on s'était rencontrés sur son film à lui, où il m'a invité à écrire des morceaux pour le film et à chanter dedans. Du coup, c'est lui qui a réalisé le clip pour Qui sont. On a fait deux autres morceaux en studio avec Guillaume Poncelet qui vont sortir aussi dans le courant de cette année. Et l'idée, ce serait d'avoir du coup un EP d'ici la fin de l'année où j'aimais beaucoup en fait le concept d'avoir du live aussi sur l'EP et donc d'avoir un peu un côté face A, face B, où la face A c'est du studio et la face B c'est du live. Parce que je pense que voilà, dans ce que j'ai essayé de créer sur ce chapitre-là, il y a beaucoup le rôle du live, de la rencontre, parce que c'est de ça que le spectacle parle aussi en fait et que les chansons elles existent différemment comme ça et que je trouve ça hyper intéressant aussi. Donc, et puis en ce moment en fait moi je fais tout toute seule, donc c'est énormément de travail pour les sorties par exemple, c'est voilà, préparer tout ce qui est diffusion, communication autour, et donc c'est en fait je suis contente d'avoir fait cette expérience là jusqu'au bout toute seule parce que maintenant ça me donne des outils qui sont hyper importants pour la suite. Et de pouvoir voilà, justement mesurer exactement ce que ça représente comme travail, comme enjeu, comme réseau, comme voilà. Mais c'est vrai que mon objectif un peu pour cette année, ce serait de m'entourer plus professionnellement pour pouvoir commencer à travailler sur la suite en fait et que ça soit fait dans des conditions où, voilà, où il y aurait une équipe, où il y aurait un peu des gens derrière parce que c'est passionnant et hyper instructif de faire les choses tout seul, je le conseille, mais on se rend compte quand même assez vite qu'il y a un plafond, et c'est normal, il y a un plafond de ce qu'on peut faire tout seul en termes de temps, de ressources, de voilà, Et c'était l'idée de derrière le fait de sortir cette chanson-là aussi, c'était ok, maintenant d'envisager la suite avec une équipe. Et donc pour après 2022, voilà, ce serait ça un peu l'idée, ce serait de repartir sur de la création, mais en étant entourée et du coup pouvoir justement me dédier à la création pendant un moment pour proposer le prochain chapitre.
Lisa, merci infiniment d'être intervenue sur les ondes de Radio SBS en Australie et peut-être un de ces jours ici en Australie, on ne sait jamais.
Ah bah oui, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous en tout cas.
Le rappel des titres de ce samedi, la ministre australienne des Affaires étrangères a rencontré son homologue des îles Salomon à Brisbane dans la nuit. La campagne électorale à 2 semaines de l'ouverture des bureaux de vote bat son plein. Et en Ukraine, une cinquantaine de civils ont pu être évacués dans la journée de vendredi du complexe de sidérurgie de Mariupol après de vives tensions et des accusations de tirs visant les convois. Les évacuations devraient se poursuivre ce samedi alors que Kiev cherche une solution pour ses soldats. Merci d'avoir passé cette heure avec nous, le programme en français d'SBS que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur toutes les plateformes, sur le site internet sbs.com.au et également toutes les applications mobiles. Et vous pouvez aussi retrouver tous les podcasts, toutes les précédentes émissions en français. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Vous retrouverez demain à nouveau un programme en français sur SBS et les infos également mardi. Passez une excellente après-midi avec SBS.
D'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.